Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Guidoline, nous arrivons devant la première écluse de cette partie du voyage. Quel est votre sentiment ?
Ça passera jamais, c'est trop gros. On sait quoi, c'est du 39 mètres, c'est ça ? Non, je crois qu'il amorce ça un peu trop tard et là, on va se prendre le mur.
Au revoir, chers auditeurs.
Ohé du bateau. Embarquement immédiat pour la troisième édition du festival Passerelle d'Europe, qui depuis 2 mois traverse les canaux, fleuves et rivières du Grand Est, entre la Belgique, l'Allemagne et la France, à bord de la péniche Ange-Gabriel, en invitant à chaque escale des écrivains, des dessinateurs, un typographe, des astrophysiciens, des philosophes ou des audio-naturalistes à rencontrer le public. Sur ce beau raffio de commerce des années 50, transformé en résidence littéraire pour auteurs paisibles, au fil de l'eau, au rythme effréné du passage des écluses. Précisément, pour cette émission entre Sarrebruck, Allemagne et Zeting, Moselle, j'ai ainsi pu faire la connaissance d'illustres passagers. L'écrivain Emmanuel Ruben, géographe défroqué, arpenteur inlassable du vieux continent, qui parcourut 4000 km à vélo en 48 jours d'Odessa à Strasbourg sur la route du Danube, titre du livre qu'il tira de cette odyssée cycliste à contre-courant paru cette année aux éditions Rivage. J'ai aussi rencontré l'autrice et scénariste Marie Desplechin, à qui l'on doit le journal d'Aurore, Dan B ou La Vie Sauve, qui vient de publier « Ne change jamais ». Manuel documenté d'initiation à l'écologie à destination des ados. Paru il y a 15 jours aux éditions L'École des Loisirs, Marie Desplechin nous parlera d'une pirate du 18e siècle, Anne Bonny, évoquée dans son livre « Enfance », co-signé avec Claude Ponty. Sur la péniche, j'ai aussi eu la joie de retrouver le dessinateur québécois Guy Delisle. Pyongyang, chronique de Jérusalem, S'enfuir, récit d'un otage, installé à Montpellier depuis 1990, qui vient de rassembler dans le livre Ici ou ailleurs, paru aux éditions de l'Association, des croquis de rues, d'immeubles, de boulevards ou d'avenues, des décors piochés dans les récits et romans de Jean Echenoz. Également présent à bord, Goncourt 99 pour Je m'en vais. Styliste et scénariste élégant, adepte d'histoires en mouvement, comme L'équipe est malaise ou Envoyé spécial, Jean Echenoz, qui publiera en janvier un livre sur, je cite, « la vie d'un garçon d'une cinquantaine d'années qui n'a pas tous les atouts de son côté ». Dans cette Europe lointaine, désincarnée, jugée technocratique et ennuyeuse, devenue un continent de repli, de peur, de montée des extrémismes, comme le dit le dernier numéro du magazine 21, à l'heure d'un possible éclatement de l'Union et de l'interminable Brexit. En quoi ces artistes se sentent-ils européens ? Est-il vrai, par ailleurs, si je me fie au message placardé dans ma cabine, qu'un casse-croûte zombie a mangé le poisson ? De plus, le célèbre François Perrin, écrivain, barman et détective privé, était-il réellement parmi nous pendant ces 4 journées flottantes et radieuses ? Tous sur le pont du Nova Book Boat. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez chaque samedi, de 12h à 13h, tel un affluent de sagesse dans votre brunch.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Bonjour, capitaine Manu.
Bonjour, Richard.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on se trouve tout d'abord ? Où est-ce qu'on est là, en Europe ?
Là, présentement, on est à la frontière franco-allemande, côté allemand, pour le moment. On est à Sarrebrücken, en allemand. Sarrebruck, en français. La ville des ponts. Et voilà, on s'apprête à partir, à lever l'ancre, même si elle n'est pas au fond de la rivière encore. Pour aller à Sarreguemines, qui est une ville qui se trouve de l'autre côté de la frontière en France.
À combien de kilomètres d'ici ?
Alors, ça se trouve à une distance faramineuse de 15 kilomètres, donc on y sera dans 3-4 heures.
Et à quoi ressemble cette péniche-là qu'on a sous les yeux ?
Alors là, on est dans la timonerie. Ce qu'on appelle la timonerie, c'est le poste de pilotage d'une péniche. On a 40 mètres devant nous. de bateau. Donc voilà, ça ressemble à un grand couloir de 40 mètres sur 5 mètres.
Et c'est un, je crois que c'est un vieux modèle, hein. C'est un modèle de 1958, qui était un ancien un bateau de commerce, c'est ça, qui transportait des pierres.
C'est ça, ouais. Là, c'est un bateau de 1956, qui effectivement a été navigué par Albert, comme on est, un Belge qui a fait toute sa vie là-dessus. Et puis voilà, en dessous de nos pieds, là, il y a un moteur de tank, un GM 1800 et quelques. Qui voilà, après la guerre, ils ont recyclé ces moteurs-là pour mettre dans des péniches.
Et là, vous allez mettre en marche cet appareil-là, ça
on est... C'est ça. Alors là, devant nous, on a une barre, n'est-ce pas, la fameuse barre de navigation qui va nous servir tout à l'heure. Mais là, maintenant, c'est un bouton magique sur lequel on appuie et qui met en route le moteur. Si tout va bien, oui, tout va bien. Donc un moteur qui a 70 ans, qui ronronne dès le premier appui. Il n'y a pas besoin de rien faire pour que ça démarre. Pas de starter, rien du tout. Et ça fait 70 ans que ça dure.
Direction Sarreguemines alors ?
Eh ben on va direction Sarreguemines, ouais.
C'est parti.
Ben, on va déjà larguer celle-là par exemple. Alors attention juste à vos pieds parce que... Ouais. L'endroit dangereux sur une péniche, c'est ici, quand on manœuvre avec les cordes. C'est les niveaux d'eau, je crois, hein, c'est ça?
Nova Book Box, l'insoutenable légèreté de lire.
Tel le cycle des eaux, un livre comme celui-ci ne devrait pas avoir de fin. J'ai rêvé cette nuit que les flots du Danube se retiraient, laissant derrière eux une vaste vallée morte, asséchée, poussiéreuse et jonchée de tonnes de détritus et d'immondices. Milliers d'épaves, de péniches et de charognes de wagons, déchets d'une Europe vouée d'abord au culte du charbon et de l'acier, quand on pense que l'Europe se suicida sous des déluges de fer et de feu, c'est toujours étonnant d'apprendre qu'elle tenta de renaître grâce à un pacte du charbon et de l'acier, disait Vlad.
Bonjour Emmanuel Ruben.
Bonjour Richard Guettet.
À l'origine de votre livre « Sur la route du Danube », à l'origine de cette épopée cycliste, il y a un roman avorté intitulé « Boulevard de l'Europe ». Deux fadas qui décident de traverser toute l'Europe à vélo, de l'Atlantique à l'Oural. Mais, vous le dites dans l'épilogue de votre ouvrage, malgré toutes vos notes, tous vos carnets, vos deux larrons n'ont pas dépassé la porte de Pantin. Qui avait-il dans ce roman ?
En fait, c'était le projet d'écrire une sorte de roman européen avec deux types, ouais, qui auraient traversé l'Europe de Paris à Kiev. Sauf qu'en fait, je pensais écrire ce livre tranquillement à Paris, sans jamais prendre la route. Et j'ai écrit, d'ailleurs c'est un livre que, non c'est marrant parce qu'on est sur une péniche en ce moment, c'est un livre que j'écrivais pas mal sur des péniches à Paris. Et puis finalement, je me suis rendu compte au bout de 100 pages qu'il fallait peut-être la prendre la route avant d'écrire le livre. En fait, l'idée, c'était vraiment de relier par le fil de la fiction, en fait, une sorte comme ça de fiction cycliste, tous les lieux où j'avais vécu en Europe, où j'avais fait du vélo, voilà. Et donc de combler les vides par l'imagination, en fait. Oh, moi, je me sens profondément européen parce que j'ai vécu dans pas mal de pays d'Europe. J'ai vécu en Italie, j'ai vécu en Turquie, que je considère être l'Europe, enfin c'était Istanbul, qui de toute manière est l'Europe. J'ai vécu en Lettonie, j'ai vécu en Serbie aussi. J'ai voyagé à peu près dans tous les pays d'Europe. Je crois que les seuls pays où je ne suis jamais allé de l'Europe continentale, c'est Malte. L'Islande et la Biélorussie, ouais, je vais compter une fois. Un jour, en fait, à Francfort, j'arrivais de Belgrade, et au moment de franchir la ligne jaune à l'aéroport à Francfort, j'avais un changement, je devais prendre un avion pour Toulouse. Et je tombe face à le type qui faisait la sécurité, en fait, hein, qui, sur les petits tapis roulants, là. Quand j'arrive, donc il me parle d'abord en allemand. Ensuite, il me demande d'où j'arrive. Je lui dis j'arrive de Belgrade. Il me demande, il me parle en serbe. Il me demande, il voit mon passeport. Il me dit ah, vous êtes français. Là, ça, il me le dit en français. Et puis après, on parle un petit peu en français, en serbe. Et je lui demande, mais vous êtes quoi? Lui, il me dit, je suis roumain. Donc là, il me parle en roumain. Mais il vit en Allemagne. Et il fait ce boulot parce qu'en fait, sa retraite ne lui suffit pas pour vivre. Et puis il me dit, mais je parle aussi slovène. Et là, il me parle un peu de slovène parce que j'ai vécu en Slovénie à l'époque de la Yougoslavie. Ça. Et en fait, je me suis dit, ça, c'est l'européen, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il baragouine un certain nombre de langues, de même que moi, je baragouine un certain nombre de langues. Et c'est ça, je crois, être européen, accepter cette diversité, quoi. L'Europe, c'est, je crois que c'est Debray qui dit ça, Régis Debray, il dit, c'est le maximum de diversité dans le minimum d'espace. Mais c'est une bonne définition, je trouve que c'est la meilleure définition qu'on peut faire, une des meilleures définitions qu'on peut faire. Si vous baladez aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est le minimum de diversité dans le maximum d'espace. Moi, j'ai traversé les États-Unis. Au bout d'un moment, je leur ai dit, j'ai envie de me barrer parce qu'en fait, votre pays, c'est partout pareil, quoi. Ils m'ont dit, non, mais va voir là-bas, tu vas voir, c'est différent. Je leur ai dit, non. Arrêtez, je me barre en Amérique du Sud, là-bas je sais que c'est différent, mais je suis d'accord, les paysages sont différents et tout, mais là, il n'y a pas cette diversité humaine, quoi. Le livre, je l'ai conçu comme ça aussi, il est tissé, au moment où je dis tissé de rivière et de vie ordinaire, mais c'est ça en fait. Cette Europe tissée de rivières et de vies ordinaires qu'on a traversées. Donc il y a beaucoup de portraits, en fait, d'habitants, des portraits d'Ukrainiens, de Roumains, de Bulgares, de gens qui nous ont vraiment... qui nous ont tiré des larmes et pris bien au trip, quoi. C'était... Non, parce qu'on passait des soirées avec les gens, tout ça, après avoir posé les bécanes, c'était assez sympa, on a passé des bons moments.
Parler des rhapsodies du fleuve, elle est jolie cette expression, ça veut dire quoi?
La définition d'une rhapsodie, en fait, c'est un chant qui est tissé de rythmes variés, en fait, et aussi avec des tonalités qui sont extrêmement différentes. C'est ça la rhapsodie, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer la prose, la poésie, vous pouvez mélanger tous les tons et tous les rythmes. Et c'est la définition vraiment de ce que c'était la rhapsodie du temps d'Homère, quoi. Et le rhapsode, c'est celui qui va arriver à tisser tout ça, c'est ce matériau extrêmement, ce matériau extrêmement divers.
Après les 2 jours que vous avez passés sur cette péniche, l'ange Gabriel, là, sur la Sarre, est-ce que vous avez ressenti les rhapsodies de la Sarre?
Rhapsodie de la Sarthe, ça fait bim bam quand on se tape des écluses, c'est ça, les Rhapsodies de la Sarthe. Oui, il y a des écluses un peu difficiles à passer. Voilà, c'est serré quoi. Ce qui était très très beau en fait. J'ai fait croire que je travaillais, mais j'étais dans ma cabine et j'étais fasciné parce qu'en fait, c'est pas du tout le même paysage que ce qu'on a quand on est à vélo. On est à fleur d'eau vraiment, et en fait, on voit les racines des aulnes et on voit les feuilles des aulnes qui viennent chercher qui viennent caresser vraiment la rivière. Et j'ai vu aussi une petite, on voit des serpents par exemple. À un moment, j'ai vu une petite vipère qui a montré sa tête et puis qui est redescendue sous l'eau. On voit les canards, les poules d'eau, enfin c'est grenouilles et tout ça. Donc c'est pas le même paysage que ce qu'on voit à vélo. On est vraiment au niveau des racines quoi. Et ça c'est assez fascinant.
Une chanson qui pourrait résumer un peu votre sentiment de l'Europe, peu importe le style, peu importe l'époque, peu importe le pays surtout.
On était accompagné par, sur la route du Danube, j'ai écouté pas mal de trucs. Pour bien pédaler, le Rock Hugo c'est parfait parce que c'est un truc un peu c'est pas très connu le Rock Hugo en France, mais il y a quelques groupes comme Elektrichny Orgasm ou Plavi Orchestra. Et c'est vrai qu'ils m'ont pas mal accompagné.
Žao mi je što smo bili samo dobri drugovi, a život leti, leti, mladost kraća je, sve će jednom da se vrati, samo ona ostaje, sve će jednom da se vrati. Samo ona ostaje. Bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star. Vino ne zna da smo nekad bili sretni par. Bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star. Vino ne zna da smo nekad bili sretni par. Bolje biti pijan nego star. Kada dođe zima i prve pahulje, čekat ću te moja buco kraj prve gimnazije. Čekat ću te moja buco kraj prve gimnazije. A nećeš, nećeš doći, znam te, dobro znam. Možda je i tako bolje, naviko sam biti sam. Možda je i tako bolje, naviko sam. Bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star. Vino ne zna da smo nekad bili sretni par. Bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star. Vino ne zna da smo nekad bili sretni par. Bolje biti.
Qu'est-ce qui nous arrive là, capitaine ?
Eh bien, nous sommes en présence d'une écluse aux portes closes. Voilà, que l'éclusier va gentiment nous préparer, j'espère. Vu qu'on n'a pas réussi à le contacter avec la radio, mais je pense que c'est en bonne voie.
Et on est où ?
On est où ? On est à l'écluse de Güdingen. Nous sommes donc notre dernière écluse allemande avant de rejoindre notre sainte patrie.
La France.
La France.
Depuis les balcons de la ville, on entend le bruit des sirènes. Des chansons vieilles de la mer qui sortent des caves de la Seine. Des chansons de matelots. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortirent des escaliers du métro. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortirent des escaliers du métro. Depuis les balcons de la ville, on voit des amours se chercher. Rendez-vous près des statues, des fleurs qu'on jette dans les paniers de la gare de Montparnasse. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro.
Que l'écluse est en train de s'ouvrir.
Elle est ouverte. Elle est ouverte. Il ne reste plus qu'à rentrer dedans. En essayant de cogner le moins possible.
Un passage très très étroit. Hein. Ça se joue à quoi, 5 cm des deux côtés?
Alors la largeur de l'écluse c'est 5,20 m. Notre bateau fait 5,07 m de large. Il nous reste donc une marge de 13 cm par deux côtés. Soit 6,5 cm de chaque côté.
Il faut avoir donc le compas dans l'œil.
Pas dans l'œil, sinon on voit plus rien, mais, mais oui, pas loin.
Ce qui est marrant là, quand même, c'est qu'on est littéralement sur une frontière, puisque d'un côté on a la France et de l'autre côté on a l'Allemagne.
Et exactement. Exactement. Et après l'écluse, on sera. Un peu plus en France. Après, c'est cette jolie écluse du doux nom de Glossbriderstroff. En France, hein, bien sûr.
Nous voguons sur la Sarre. Où est-ce qu'on arrive, capitaine, là?
Alors, on arrive à Sarreguemines, cher Richard.
Qui sera notre destination pour deux jours, c'est ça?
C'est ça, on va rester deux jours et demi à Sarreguemines avec des rencontres et plein de gens qui vont aller venir sur cette péniche. Et si tu ne prépares pas 200 mètres avant, eh ben, t'es foutu. Donc là, tu me distrais en me posant des questions, mais j'ai quand même réussi à préparer ça.
Bravo, c'est là qu'on voit le sang-froid. Ça me fait penser que entre le mot batelier, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui conduit le bateau, et le mot battleur, qui est plutôt quelqu'un qui est très à l'aise avec sa langue, qui est très éloquent, il y a peut-être un rapport justement de pouvoir anticiper, avoir toujours un temps d'avance. Est-ce qu'il faut savoir naviguer avec les mots? C'est quasiment ce qu'on est en train de faire entre les battleurs et le batteur.
Ouais. On navigue avec les mots, on lève l'ancre souvent.
Nova Book Box, des bouquins à la louche, lus à la bouche.
Chères auditrices, chers auditeurs, mousses et matelots, boscos et amiraux, vous écoutez toujours la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova, embarqué cette semaine dans un reportage à 5 km/h à la frontière allemande, à bord de la péniche de ce festival de navigation littéraire nommé Passerelle d'Europe, qui existe depuis 3 ans et qui se balade depuis maintenant 2 mois à travers les canaux, les fleuves, les rivières du Grand Est, à bord de ce bateau qui invite à chaque escale des écrivains, des dessinateurs, pour des rencontres avec leurs lecteurs. Tiens, c'est au tour de Marie Desplechin de prendre place près des écoutilles. Elle a publié plus d'une 40aine de livres depuis le début des années 90, dont une bonne partie sont à destination des enfants et des adolescents, écrits dans la pagaille de son appartement, dans la cuisine, me semble-t-il, au milieu du passage,
du bruit, ce qui ne la dérange jamais. Elle est donc à son aise dans la cale de l'ange Gabriel, dans la cale de cette péniche qu'elle scrute attentivement, puisque le roman qu'elle écrit en ce moment, l'histoire d'une petite fille et d'une dame qui se prend pour la réincarnation d'un illustre écrivain, situé dans le Bobigny du 19e siècle, quand la ville était encore grouillante de marécages, ce roman pourrait bien voir passer des péniches. Bonjour Marie Desplechin.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous rencontrer ici, dans la cale de cette péniche à Sarreguemines, en Moselle. Alors, lors d'une rencontre avec le public ici même, vous avez dit que l'enfance, qui est un territoire essentiel de votre vie d'autrice, que l'enfance est une reconstruction, on passe sa vie à reconstruire ce qu'on croit être les images et les séquences de notre enfance. Et vous avez aussi dit que pour pouvoir écrire des livres pour les enfants, eh bien, il faut, de fait, ne pas oublier l'enfant qui est en nous. Et il me semble, j'espère que je ne me trompe pas, vous avez aussi dit qu'il faut savoir tendre des câbles entre notre moi d'adulte et justement cet enfant précédemment. Alors je me suis demandé si le fait d'être sur une péniche, ce n'est pas une bonne métaphore justement de cette activité, de cette condition d'auteur pour la jeunesse. C'est-à-dire on vogue sur l'existence, mais on lance des amarres vers les ports de nos souvenirs. Est-ce que c'est une métaphore complètement foireuse ou est-ce que ça peut tenir ?
Ah, vous êtes hyper créatif, je trouve ça merveilleux. Peut-être ça peut être ça, oui. Moi, ce que j'aime bien dans la péniche, c'est que c'est un truc qui est assez enfantin, c'est une cabane. C'est une super cabane, je pense que n'importe quel môme, on lui décrit la péniche, il est partant tout de suite, il veut la construire même. Et j'ai cette sensation-là, donc c'est extrêmement agréable.
Puisque nous sommes sur un bateau, est-ce que vous avez déjà rêvé d'être une pirate quand vous étiez petit, ou peut-être encore aujourd'hui ?
Ah ouais. Bah, pirate, je pense que... Si on est un individu sain d'esprit, il faut qu'il y ait que le pirate existe toujours quelque part en vous, parce que sinon, je vous plains dans votre existence. Donc, quand j'étais gamine, oui, j'étais pirate ou cambrioleur, ou on était, voilà. Et adulte, certainement, il y a une partie qui l'est, oui. Alors après, pour être vraiment sur un vrai bateau, les pirates, ils avaient une vie super dure. Hein. J'ai fait la petite biographie dans un livre... qui s'appelle « Enfance » de Anne Bonny, par exemple, qui est une histoire géniale, que je conseille à tout le monde d'aller voir l'histoire de Anne Bonny.
C'est un livre que vous avez publié l'année dernière, qui s'appelle « Enfance » effectivement au pluriel, avec les illustrations de Claude Ponty, et qui consiste, ce sont des récits d'enfance de personnes illustres comme le Dalai Lama, comme Andersen, comme la comtesse de Ségur, ou bien Alan Turing, enfin plein de gens formidables.
Ben c'est un livre, c'est comme un espèce de classique, en fait, on fait, voilà, et là on a fait le nôtre avec les personnages qu'on aimait bien, et on raconte un moment de leur enfance, et on dit à peu près qui c'est, il y a beaucoup de dessins de Claude, qui a fait un certain nombre de textes aussi. Et donc les miens, donc moi j'ai fait Anne Bonny, et donc c'est des vies extraordinaires, mais c'est très violent, puis ça se termine mal, les gens sont pendus, les gens meurent en prison, non, c'est, mais c'est très exaltant. Anne Bonny, totale pirate, née vers 1702. Son père est un bourgeois irlandais, sa mère une servante. Anne est leur fille illégitime. Pour échapper au scandale de sa naissance, les parents ont dû quitter l'Irlande pour s'installer en Amérique. William Cormack a acheté une grande plantation en Caroline du Sud. Chaleur humide toute l'année, arbres immenses, fantastiques récoltes de coton, de riz, d'arachides, c'est l'opulence. Mais pas le bonheur. Marie, la mère d'Anne, meurt quand la petite fille a 10 ans. Anne reste seule avec son père, qui a décidé de l'élever comme un garçon. La vie ne doit pas être facile. Quand elle a 13 ans, Anne s'enfuit. Elle a ses raisons. On dit qu'elle a planté un couteau de cuisine dans le ventre d'une domestique qui lui déplaisait. La voilà sur le port de Charleston, repère connu de tous les pirates de la côte. Elle a l'air misérable avec ses cheveux roux coupés courts, ses habits en bataille et son visage crasseux. Elle est jolie pourtant et intelligente. Elle ne met pas longtemps à se faire des amis. Bandits et boucaniers sont fascinés par cette petite bonne femme intraitable qui sait se servir des armes quand elle en a besoin. L'un d'eux lui demande sa main. Anne va le suivre sur les mers à l'assaut des bateaux marchands. Mais le pauvre James Bonny ne sera que le premier dans une longue série d'amours. Excédée, son père finit par la déshériter. Elle se vengera en mettant le feu à sa plantation. Anne Bonny, vêtue en homme et l'arme à la main, mène une brillante carrière de pirate. Après James Bonny, elle épouse Calico Jack Rackham, plus aventureux et plus célèbre, et se lie d'amitié, peut-être d'amour, avec Mary Read, pirate elle-même. Bonnie et Red Rackham forment un trio redoutable. Ils sont arrêtés, Jack est pendu, Mary meurt en prison, Anne est libérée, peut-être grâce à son père. On ignore ce qu'elle devient, on raconte qu'elle s'est remariée, qu'elle a eu 8 enfants et qu'elle est morte bien vieille à Charleston.
Puisque le festival qui nous accueille s'appelle Passerelle d'Europe, j'ai quand même une question qui est à la fois super simple et très compliquée. Ça veut dire quoi être européenne, être européen ?
Dans mon cas, c'est très sentimental. C'est-à-dire si quelqu'un vient de Pologne ou... Je prends des Europes même assez lointaines, voilà. Ou de Hongrie, plus... J'ai un sentiment de proximité avec lui. C'est-à-dire, je ne ferai pas de différence. Pour moi, ça représentera la même chose, il y aura la même distance que si quelqu'un me dit « je viens de Bretagne » ou « je viens du Pays Basque ». C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on partage les mêmes choses. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas la langue, mais ça n'a pas d'importance. C'est le même fond. Je sais qu'on est la même patte. Et que là-dessus, après, il y a des choses qui sont tout ce qui est de l'orne, la différence qui appelle la curiosité et le désir. Mais ça, moi, j'adore aller au Pays Basque et rencontrer des gens qui se sentent basques et qui vous parlent de leurs trucs basques et qui vous disent comment ils font de la politique comme des basques ou de la bouffe comme des basques. J'ai pas envie d'être comme eux, mais j'ai envie que ce soit des frères ou des sœurs et je trouve ça... Je participe. Et j'ai ce sentiment-là pour l'Europe. Et je me souviens, je suis parlée il n'y a pas longtemps avec une jeune femme polonaise qui travaille en France et qui disait que c'était dur d'être polonaise en ce moment, c'est la Pologne, tout ça. Et c'est marrant, c'est moi qui défendais la Pologne comme si la Pologne, c'était mon pays. Mais je disais, oui, mais alors est-ce que tu te souviens je parlais d'Olga Tokarczuk, le meilleur écrivain européen, il est en Pologne maintenant. Et ce type, je crois que c'est un Polonais qui a écrit un livre quand il était emprisonné qui s'appelait Proust contre la décadence au début de la guerre. Et il a fait des conférences à ses codétenus pour les sortir du marasme où ils étaient. Et en fait, il leur a fait des conférences sur Proust. Et ces textes de ces conférences a été édité, donc il le faisait de mémoire. Puis de parler de l'histoire terrible de la Pologne où tous les gens brillants successivement ont été exécutés, voilà. Et de voir que les gens ne sont pas... Il n'y a pas le peuple des bons, il n'y a pas le peuple des mauvais, il y a le peuple de nous tous avec cette histoire extrêmement violente et contrariée et construite ensemble. De ne pas se sentir européen, je ne sais pas comment dire. C'est tellement pauvre, quoi. Puis c'est une erreur. L'Europe, elle existe dès le Moyen-Âge. Ça circule sans arrêt. Même l'Europe, ça circule. Les empires, les lignes bougent. Mais encore une fois, c'est vraiment la même patte, quoi. Je trouve ça dommage que l'enseignement des langues soit une telle calamité. Et que... Enfin, ce qu'il y a de bien, c'est Erasmus, parce que quand on bouge, on apprend. Mais qu'on ait tellement de mal à parler les langues les uns des autres. Parce qu'encore une fois, ça s'est beaucoup fait. Et c'est fascinant de voir que... C'est pas le nombre de gens qui... Et la circulation des écrivains au XIXe siècle, par exemple, pour ne parler que de ça, ils bougent sans arrêt. Ils vivent à Paris, Andersen va faire des Airbnb chez Dickens qui n'en peut plus. Il y a des tas d'échanges, Victor Hugo... Enfin, ça bouge sans arrêt. La pensée, la création, l'idée de nation, qui est une idée qui est intéressante historiquement, comment ça se constitue, et puis qui est assez jolie, parce que au moment où elle se constitue, les gens vont rechercher aussi des patrimoines qui, sans cela, sont en train de se perdre. Par exemple, les comptes, on peut parler des comptes, ils sont recherchés, ils sont archivés, et tout ça, au moment où se constitue l'idée de nation, parce que la nation, c'est la langue, et voilà. Donc ça permet de sauver des choses, et ça, c'est beau. Mais à partir du moment où ça devient exclusif, ce qui était beau devient juste complètement con. En fait, c'est cette chose qu'on préserve, elle est pour être partagée, et de toute façon, elle est traversée. La frontière est... C'est les frontières régionales, quoi. C'est comme on les a à l'intérieur de la France. C'est comme si vous foutiez une frontière en Moselle, là, en disant, voilà, là, nous, notre identité mosellane, on ne veut pas... Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les Niçois ? Voilà, et pourtant, bon, ils partagent une patte de langue et une patte d'autres trucs.
Qu'il existe une chanson parmi toutes celles que vous adorez, peu importe le style ou l'époque, qui illustre justement cette idée de l'Europe, votre sensation d'européenne.
Il pourrait en avoir plein, mais c'est peut-être parce que j'en ai parlé entre amis il n'y a pas longtemps, il y a celle d'Arnaud. putain, on est tous européens, voilà. Donc celle-là, elle est bien parce qu'elle n'est pas compassée. Ce qui est embêtant dans l'idée de l'Europe, c'est que là, quand j'en parle, c'est un peu joue la science, raconte l'Europe depuis la nuit des temps, alors tous les gens, en fait, qu'on voudrait toucher, ils sont en train de dormir en se demandant quand est-ce que ça arrête le discours. Donc ce qui est bien, c'est quand on peut le dire comme ça, d'une manière physique, quoi, en sautant sur place, dans une salle de concert, en criant le truc. Et là, on le sait, voilà, on le sait que, putain, on est européen. Zombie à manger le poisson.
Chers auditeurs, me croirez-vous si je vous dis que Marie-Hélène Caroff, organisatrice du festival Passerelle d'Europe, ainsi que Manu Nourdin, le capitaine de ce bateau sur lequel je me trouve aujourd'hui, sont d'excellents chanteurs qui n'hésitent pas à dégainer guitare et ukulélé après le dîner. En témoigne cette reprise adorable de cette si belle chanson de 1963, La Tendresse, jadis interprétée par Bourvil et Marie Laforêt. Merci beaucoup. Bruit de sirène de bateau à la bouche.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. On ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. L'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. L'amour ne serait rien. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous les chagrins s'effacent. On a les larmes aux yeux. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour. Jusqu'à la fin des jours.
coincé dans une écluse, à quelques kilomètres seulement de Sarreguemines. Je retrouve, à ma grande surprise, François Perrin. François Perrin, bonjour.
Bonsoir.
François Perrin, détective privé, barman, écrivain, critique littéraire. Une question simple, à bord de cette péniche. C'est quoi pour vous l'Europe ?
L'Europe, c'est un assemblage de pays. C'est avant tout une belle aventure humaine. L'Europe, c'est une vache au départ également.
Une vache ?
Bien sûr, c'est la vache Europe.
Comment ça ? C'est une métaphore ou c'est un animal ?
Non, c'est Europe, c'est le nom de... Oh, je ne sais plus exactement, il faut que je vérifie. Du coup, je suis un peu en défaut. Mais il y a quelque chose avec une Europe et de la mythologie grecque, voilà.
Est-ce que vous pourriez décrire le paysage post-industriel qui est face à nous ?
Alors, il est particulièrement frappant parce qu'en fait, là, on a une espèce de grande grande fabrique à notre gauche qui est totalement désaffectée. Et qui est vraiment entre la fabrique et une sorte de castelet ou de forteresse dont il ne subsisterait plus qu'un seul pan. C'est très bizarre, tout le bâtiment est vide, la plupart des vitres sont éclatées. Juste derrière, on a des grands câbles électriques, des grands fils électriques en fait, qui traversent le paysage. Et étant à ce moment précis, on est en contradiction d'une certaine manière avec le mouvement et le voyage, puisqu'on est en plein dans l'écluse. Une écluse particulièrement serrée avec un ponton au-dessus, des ponts, etc. Et on est la péniche étant particulièrement grande, elle a la taille maximale qui correspond à la taille de l'écluse. On est vraiment dans un espace extrêmement restreint. Alors que l'idée du voyage aussi, c'est cette idée un petit peu de liberté, d'espace, et qu'on a le reste du temps complètement quand on navigue.
On vit un plein paradoxe.
On vit entre tradition et modernité, je dirais, tout à fait.
Et il est important peut-être de résumer ce qui vient de se passer. Pour nos auditeurs, c'est-à-dire que le pont était si bas dans cette écluse qu'on a failli voir la timonerie, la cabine du pilote, se faire décapiter. Et il a fallu enlever une partie du toit et même baisser le cul du bateau pour pouvoir passer. C'était le moment le plus éprouvant de tout ce séjour.
Ah, de toute ma vie, je n'ai pas honte de le dire.
Il y a toute une verdure qu'on aperçoit tout de même.
Il y a toute une verdure, c'est vrai. Il y a également une route passante sur le côté qui fait une espèce de petit axe de circulation qui est assez dense. Et on a effectivement là encore un autre pont, c'est-à-dire que là on a quand même trois ponts dans un espace d'à peu près 20 mètres carrés, tunnels et ponts, qui est effectivement pour le coup recouvert de végétation. C'est un peu le décalage, c'est ce qu'on disait un peu ce matin, c'est que souvent par la route on a l'impression de ne voir que des bâtiments, et dès qu'on est sur l'eau, l'avantage c'est qu'on voit que de la verdure, toute la verdure qui est cachée derrière le bâtiment, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est très beau, parce qu'elle est en plus une végétation qui est très fournie, très variée. Enfin, pas variée de ouf, mais variée un peu. Et c'est joli.
Variée un peu. Ah oui, écrivain, quoi. C'est vraiment chaud. On est content d'avoir un aide, un poète à bord, quand même. Hein, variée un peu.
Un ménestrel. Non, voilà, on a du lierre, on a des...
Vous ne savez pas nommer la nature.
Oui, des arbres verts, des feuilles vertes et des feuilles rouges également. Des petites feuilles jaunes. C'est la vigne vierge, tout à fait, me dit mon voisin Pascal, ici présent. Et également des bâtiments de couleur chamarrée.
Et si vous deviez, par exemple, citer une chanson qui exprime mieux que tout votre sentiment de l'Europe, ce serait quoi, François Perrin ?
Je ne sais plus le nom de le Neun und Neunzig Luftballon, pour moi, est vraiment quelque chose que j'ai
le
toujours
associé.
Le Neun und Neunzig Luftballon, de quelque chose comme Nina, je ne sais plus le nom.
Nina.
Nina, c'est ça. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été associé à un truc à la fois d'enfance mosellane, une chanson bien entendu en allemand, il n'y en avait pas 12 000. Parce qu'il y avait à peu près à l'époque, à peu près Scorpion et Nina, je pense, c'était à peu près les Totenhausen, mais qui n'étaient quand même pas... Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours associé un truc de... Ça parle de la guerre, ça parle de beaucoup de choses. Après, c'est sous un rythme un peu... je sais pas, c'est une chanson que j'associe à l'Europe assez naturellement. En fait.
Vous connaissez les paroles ?
Absolument pas, et je ne vous ferai pas ce plaisir.
Et mais vous voulez pas légèrement la fredonner pour lancer la chanson qu'on va écouter tout de suite ?
Denkst du vielleicht gerade an mich, dann singe ich.
Nous avons été libérés de l'écluse. Et François Perrin, critique, écrivain, barman, détective privé, aimerait faire un erratum par rapport à une déclaration effectuée sur le pont de la péniche Ange-Gabriel qui vogue sur la Sarre actuellement.
Effectivement, Europe n'est pas du tout une vache. Europe, Europe en revanche, est une princesse phénicienne qui a couché avec un taureau, c'est-à-dire Zeus déguisé en taureau. Donc, qu'il a approché sur une plage, qui s'est déguisé en taureau pour échapper à la permanente surveillance de Hera, son épouse, très, très, très jalouse. Et le trouvant très beau, etc., elle a décidé de le monter sur son dos. Et le taureau l'a emmené très, très loin d'ici, l'a un petit peu kidnappé, pour se retransformer en. Reprendre forme humaine, on va dire, et s'accoupler avec elle, en fait.
Comment est-ce qu'on peut kidnapper un petit peu quelqu'un ?
Bah, c'est, on le kidnappe, alors ça dépend. Au niveau légal, il y a plusieurs catégories de kidnapping.
Et du coup, je vous repose la question quand même, c'est une question importante. Qu'est-ce que c'est pour vous être européen ?
Être européen, c'est être capable de se transformer en plusieurs animaux pour faire la cour à des femmes.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Il a raconté dans son livre Pyongyang un séjour assez curieux de 2 mois en Corée du Nord au début des années 2000 où il se trouvait pour travailler sur des films d'animation. Dans ses Chroniques de Jérusalem, qui lui valut le Fauve d'or du meilleur album au Festival d'Angoulême en 2012, il partageait ses observations et sa vie de famille le temps d'une année en Israël. Plus récemment, il a raconté dans la BD S'enfuir la vraie vie claquemurée d'un otage et son évasion miraculeuse. Ici, pas question de s'en aller. Le Québécois Guy Delisle est en Moselle, à Sarreguemines, comme moi, comme Nova, à bord de la péniche du Festival de Navigation Littéraire Passerelle d'Europe. Bonjour, Guy Delisle.
Bonjour.
Nous sommes à bord de cette péniche pour un festival qui s'appelle Passerelle d'Europe. Alors je me demande, pour un artiste comme vous, qui est québécois, installé en France depuis 1990 et qui vit aujourd'hui à Montpellier, est-ce que vous vous sentez européen ?
Moi, je me sens assez rapidement chez moi, un peu partout, après avoir vécu 6 mois en Birmanie. Une fois que je connais le quartier, j'ai l'impression d'être chez moi, de revenir chez moi. Et en France, maintenant, j'y suis depuis plus de 30 ans. Donc oui, je suis installé à Montpellier. Montpellier, c'est vraiment chez moi maintenant. J'ai l'impression d'être autant français que québécois, parce que j'ai passé plus de la moitié de ma vie en France. Et pour moi, la France se conjugue avec l'Europe, hein. Donc la France est dans l'Europe et je trouve que c'est très bien. Et donc voilà, en me sentant français, je me sens aussi européen pour avoir visité pas mal de pays, avoir été invité dans des festivals. Là, je vais aller à Vienne le mois prochain. Tout ça, c'est l'Europe et je trouve ça fabuleux que ça tienne ensemble et que ça fonctionne comme un seul pays. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, il y avait un décalage culturel. J'aurais pu, je crois, faire une bande dessinée sur le regard d'un Québécois sur les Français. Alors qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire ça parce que je me suis posé la question. Mais maintenant, je suis complètement intégré donc, dans cette culture, dans cette société. Et j'ai plus le regard. Des fois, j'ai des amis Québécois qui viennent et qui sont surpris de trucs. Et je me dis, ah bon, tiens. Et donc, j'ai plus ce regard parce que je suis surpris qu'ils observent des choses comme ça que moi, je ne vois plus. Moi, j'ai perdu l'accent québécois parce que quand je suis arrivé ici, tout le monde me faisait répéter 2 fois. Et c'est pas vraiment une volonté, c'est juste que ça a fondu au soleil et c'est devenu comme ça. Donc voilà, je fais partie du paysage.
Dans le livre Ici ou ailleurs que vous venez de publier à l'association, qui est une manière de reparcourir les romans de Jean Echenoz par les rues, par les décors, vous avez sélectionné à travers toute son œuvre des endroits où des rues très spécifiques sont citées, et vous dessinez cette rue aujourd'hui en enlevant les personnages en bichronie, de manière assez simple d'ailleurs et très belle. Ça m'amène à vous demander tout simplement, parmi tous les romans de Jean Echenoz, parmi tous ses livres, lequel est votre préféré ?
Il a fait un tout petit livre qui est autobiographique parce qu'il parle de ses débuts. Le premier livre qu'il a présenté chez Minuit, pourquoi il l'a présenté après avoir essuyé plein de refus. Donc je m'identifie beaucoup au personnage et je trouve ça fabuleux avec son écriture très très simple de décrire tous ses débuts.
Titre de ce livre ?
Celui-là, c'est Jérôme Lindon. Donc c'est le nom de l'éditeur de chez Minuit avec qui il a eu des relations. Et quand il est mort, il a eu tout de suite envie d'écrire voilà, comment ça s'était passé avec lui. Et c'est un tout petit livre qui fait même pas 100 pages, il fait 40 pages, je crois. Et c'est ce côté autobiographique. Bon, moi j'ai fait des bandes dessinées autobiographiques, donc ça me touche particulièrement. Et j'aime aussi beaucoup la série de trois livres qu'il a fait sur des biographies, donc en prenant un musicien Ravel, un sportif Zatopek et un scientifique Nikola Tesla. Donc ces trois-là, je les adore. Et là-dedans, peut-être mon préféré, ça serait peut-être Ravel. Cette description de ce petit bonhomme très chic qui était à la fin de sa vie, parce qu'il prend que les 10 dernières années, où il n'était plus très bon pianiste parce qu'il avait une maladie aussi qui faisait qu'il perdait un peu, il en perdait quelques morceaux. Et il n'avait pas toute sa tête. Et on le décrit, on le suit. Voilà, un livre absolument passionnant. Quand on lit du Eschnoz, il y a toujours une élégance, mais une élégance que moi je trouverais pas prétentieuse ou qui est un peu hautaine, pas du tout, parce qu'il est toujours à un niveau presque humoristique. Donc c'est une élégance un peu à l'anglaise, où de temps en temps, hop, il y a un petit pas de côté et on revient à nos moutons, on va pas aller dans ce sens-là. Du coup, il corrige le tir très rapidement et après il s'empêche pas de partir dans quelque chose d'un peu plus lyrique. Donc voilà, il y a toujours des surprises et un maniement de la langue qui lui appartient. Moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs, des petites tournures de phrases. Voilà, au lieu, il parle d'un personnage qui comment il fait ça ? Au lieu de dire un personnage qui reste planté là, écarquillé. Donc voilà, pas obligé de dire qu'il écarquille les yeux, c'est redondant, il utilise juste écarquillé. Et c'est vraiment sa façon de travailler. Il enlève tout, il relit une fois, il fait son manuscrit, il le reprend, il réécrit à peu près tout, parce qu'il enlève tellement de trucs, et ça devient une espèce de concentré, comme ça. Ça finit par être 250 pages, alors qu'au début, c'était beaucoup plus long. Et ça, il va le refaire, comme ça, plusieurs fois, 5-6 fois, jusqu'à ce que il n'y a pas un mot qui dépasse, pas une virgule qui manque. Donc quand on lit ça, c'est, voilà, c'est finement ouvragé, et c'est, voilà, c'est un régal, chaque album. Il se trouve qu'il a fait une histoire très très courte qui s'appelle « L'occupation des sols », qui fait à peu près 16 pages. Et l'autre fois, j'ai commencé à me dire « Tiens, on pourrait peut-être découper ça et le voir. » Et c'est vrai que ça tiendrait, ça ferait un album où on aurait là le plaisir de tout son phrasé, de toute sa lecture. Et je pourrais, de la même façon que j'ai fait avec « Ici ou ailleurs », travailler beaucoup le décor, parce que c'est quasiment... Il parle d'une architecture, il parle d'un bâtiment qui est en train de se faire ravaler, qui vit au travers d'une dizaine d'années, je crois. Et voilà, je pourrais travailler là-dessus, je crois. C'est un projet qui commence à tourner dans le fond de ma tête, et je crois que je vais le sortir après celui que je suis en train de faire.
C'est aussi un livre qui n'aurait pas de personnage, qui n'aurait pas de corps humain, c'est que le dernier livre, il est vide d'être humain.
Oui, parce que le dernier livre, c'était... Je travaillais sur l'architecture pour plusieurs raisons. Bon, j'aime bien, après, moi, dessiner l'architecture. Il se trouve que quand je lis les livres de Jean Eschnoz, il passe beaucoup de temps à parler des rues, de la situation géographique. Il décrit les gens, mais très, très peu. On n'est pas dans des grandes descriptions, comment ils sont habillés, tout ça. Ça s'est évoqué très, très rapidement. Ce qui fait qu'on voit les gens, on voit leur caractère, mais on ne les voit pas vraiment physiquement, je trouve. Donc, j'avais pas envie d'arrêter l'imagination... La mienne sur un personnage. À ce moment-là, on verrait tel personnage toujours de la même façon. Ça m'embête toujours. Et je le voyais plus comme un décor qu'on propose pour se balader dans ses lectures à lui. Puis il se trouve que moi, quand je dessine, j'aime bien m'asseoir au coin d'une rue et faire voilà, une architecture, un coin qui m'intéresse. Jean Eschnoz fonctionne un peu comme ça. Il se balade dans la rue, il voit un balcon, c'est ce qu'il racontait l'autre fois, qui est en forme de triangle, et ça lui pose des questions, ça l'intéresse, et ça devient pour lui un sujet qui va pouvoir être placé dans un livre. C'est un décor qui va l'intéresser assez pour faire des phrases alentour de ce balcon, de le mettre en situation. Donc il y avait presque un peu la même façon de travailler.
Avant cette possible adaptation de l'occupation des sols, vous dites que vous travaillez en ce moment sur quelque chose qui est, je crois, un texte autobiographique sur votre jeunesse. Que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, mais je m'étais dit, après 50 ans, je m'autoriserais de parler de mes souvenirs de jeunesse, parce que c'est assez facile à imaginer ou à faire, je ne sais pas trop. Donc là, j'en ai 53, je m'y mets. Et quand j'étais jeune, vers 16-17 ans, j'ai travaillé à l'usine où mon père travaillait, qui était une usine de pâte et papier, donc à Québec, c'est la grosse usine. Donc une tradition très nord-américaine, le papier. Journal, donc c'était des très gros rouleaux et c'était des boulots qui étaient assez durs parce que c'était la nuit dans un environnement très bruyant et très chaud, très ouvrier aussi. Et voilà, c'était vraiment mon premier boulot. Donc je me retrouve avec des ouvriers qui, eux, sont là tout le temps. Et moi, c'était que les étés. Donc ces trois étés, j'ai terminé de faire le premier été. Je suis sur le deuxième et je vais essayer de le terminer pour le sortir l'année prochaine en 2020.
Voilà. I love you. You're a 60-year-old woman of ideals. Unprecedented peacetime in your arms reveal that any tensions we can overcome, because I love you, I love you. Yes, I love you. I love you. I love the way you shine your golden stars. I love the way you reveal all your hidden charms. From the Danube to the Severn and the Seine, you're driving me insane. Oh, how I love you. How I want you. When I met you, I'd never tasted pasta or baguette. I'd never heard the golden call of castanet. You showed me scenes I thought I'd never see. We've got currency. How I love you. Yes, I love you. I love you. You liberated me from polymath. You cultured me with sophistication and panache. Don't let those city bankers take control. Let's share the love with all. Let's share the love with all. Because I love you. I need you. Your generosity rebuilt my life. Paved my streets, protected all my human rights. Though we don't always see things eye to eye. Don't wanna say goodbye. Don't wanna say goodbye. Because I love you.
Lente découverte que cette chanson d'amour signée du crooner gallois Gruff Rhys, I Love You, I Love EU comme European Union, composée juste au moment du vote pour ou contre le Brexit, dans laquelle Gruff détaille les charmes de cette femme de 60 ans qui le rend dingue, du Danube à la Seine, une femme, l'Europe, entre les mains de laquelle on trouve un temps de paix d'une longueur sans précédent, qui lui a permis de goûter la baguette ou le son des castagnettes.
Nova Book Box. Nova te mince la tête avec tes mots très doux.
Quelle surprise que celle de partager pour quelques minutes la cabine de l'écrivain Jean Echenoz, ici en Moselle, à bord de la péniche du Festival de Navigation Littéraire Passerelle d'Europe. Jean Echenoz est le père d'un musicien bien connu de vous, chers auditeurs, Tactile, le DJ et beatmaker d'Institubes. Il y a notamment avec TTC. Mais Jean Echenoz est aussi le père d'une œuvre étrange entre observation minutieuse du réel et recherche patiente d'une langue qui accueille les accidents, les bizarreries, l'humour, les dissonances. J'aime quand c'est différent, dit-il. J'ai besoin que ça bouge. Si je m'attardais sur quelque chose de trop fixe, je m'ennuierais. On l'imagine donc bien à sa place, sur ce bateau, lui dont les romans et récits depuis 1978 se baladent entre la Corée, la Malaisie, l'Inde du Sud, le pôle Nord, un cargo, la gare du Bourget, tout en n'arrêtant pas de repasser à pied devant cette façade du boulevard Pereire, Paris 17e, devant cette boutique nommée « Au chirurgien assassiné », écrit en lettres de sang qui dégouline, fermée depuis des années, boutique qui l'obsède, et que Guy Delisle finira par dessiner, à ma demande, dans la cale de la péniche, juste après cette interview. Le dessin en question sera disponible sur la page du podcast de l'émission.
Quand on écrit des romans, ce n'est pas tout de jouer avec les personnages. Il faut aussi, et avant tout, penser au décor. Il arrive qu'on imagine un décor capable de convenir à ces personnages après qu'on a décidé de leur mouvement. Mais parfois aussi, c'est lui qui, le premier, prend l'affaire en main. Un vrai décor, dans la vraie vie de tous les jours, qu'on peut rencontrer par hasard, dont on s'empare et qui va constituer à lui seul le point de départ de l'intrigue. Ce peut être un immeuble, une décharge ou un monument, un coin de rue, un port, un square, une plage ou un hangar. Il n'est pas nécessaire que ces lieux soient beaux ou singuliers, exotiques ou pittoresques. Peut-être même vaut-il mieux qu'ils ne soient rien de tout ça. C'est souvent leur banalité qui les rend, au contraire, précieux.
Bonjour, Jean Echenoz.
Bonjour.
Je suis ravi de vous rencontrer ici, à Zétain, en Moselle, qui est à la fois notre ici et notre ailleurs. Vous, ici et ailleurs, c'est le titre du livre que vous venez de publier aux éditions L'Association avec Guy Delisle. Quel personnage pourrait convenir au décor qui est le nôtre, c'est-à-dire cette péniche qui vogue à 5 à l'heure sur la rivière de la Sarre?
Oh ben, ça pourrait tout à fait... le point de départ d'une histoire, bien sûr. D'autant plus que dans mes récits, dans mes romans, il y a toujours pas mal, je crois, la notion de mouvement. Les personnages sont toujours un peu en déplacement, soit à la faveur d'une enquête ou d'une fuite, d'une fugue ou d'un, ou je sais pas, enfin, il faut toujours qu'il bouge un peu. Et là, cette péniche-là, c'est une forme très très particulière de mouvement, quoi. C'est presque l'allure d'un piéton. Et puis, ça traverse la nature d'une drôle de façon, c'est-à-dire que c'est pas du tout l'image qu'on perçoit de la route ou du train ou de l'avion. Je veux dire, c'est comme si on était dans une espèce d'intimité de la nature, quoi. Donc c'est qui quelquefois a l'air presque sauvage, puisque c'est un canal qui traverse les terres. Et non, c'est une trame pas mal. Ça pourrait être un arrière-plan et même un travelling, en fait, un travelling pas mal.
À quel type de personnage ça peut aller?
Mais comme c'est un parcours très placide, je pourrais imaginer uniquement un personnage hyper nerveux, quoi, pour casser un peu l'ambiance.
Je vais lire deux extraits de ces phrases qui ont été repêchées par Guy Delisle pour composer ce livre, ici ou ailleurs. La première, la voilà, elle provient de votre roman intitulé Cherokee. C'était pourtant des hôtels de luxe, la plupart du temps, avec un bar équipé d'un piano, mais bon. Il revint sur ses pas vers la place de l'Europe, qu'il dépassa pour s'engager dans la rue de Liège. Et la deuxième phrase, que j'aime bien, tirée de votre livre intitulé « Lac ». Une très jolie fille rousse traversait le boulevard avec un sac à dos. Ah non, c'est un bébé, tiens. Puis un café désert s'offrait rue Lavoisier. Cette traversée de votre œuvre sélectionné par Guy Delisle en se focalisant sur le nom des endroits, des décors, ça permet d'observer tout de même le travail que vous faites sur la phrase. Et j'aimerais tout de même, parce qu'on entend du rythme, on voit les choix, même si, c'est peu de mots, mais ce fragment, il dit quand même quelque chose sur votre métier d'écrivain. Et j'aimerais savoir jusqu'où vous travaillez la phrase. Est-ce que il y a beaucoup de reprises? Est-ce que vous dégraissez beaucoup? Ou est-ce que les phrases, elles apparaissent quand même un peu comme ça déjà, elles sont longuement mûries et elles apparaissent telles quelles quand vous vous mettez à travailler?
Non, les phrases, quand une phrase a l'air de convenir, je la note, parce que il me semble que c'est un grand mot, mais l'architecture de la phrase convient, mais après elle est reprise ouais, de nombreuses fois, parce qu'il faut éviter, il y a des assonances à éviter, il y a des dissonances à introduire aussi, il y a des rythmes qui s'imposent, il y a des sons qui vont pas avec d'autres sons, enfin non, ça passe pas mal de temps à se construire, à se reconstruire jusqu'à ce que elle ait l'air de tenir debout, à la fois dans ce qu'elle raconte, et puis beaucoup, et presque autant, et peut-être même plus, dans comment elle sonne. Et ça, ça vient pas spontanément. Enfin, si j'avais du génie, ça viendrait peut-être spontanément, mais moi, il faut que je les travaille beaucoup, parce que jusqu'à ce que ce soit des petites des petites unités rythmiques et de sens et de son, quoi, et qui me donne le sentiment qu'elle fonctionne à tort ou à raison.
Comment ce travail sur la phrase a évolué depuis votre premier livre publié à la fin des années 70?
Ça je crois que ça a été toujours un peu les mêmes préoccupations, sauf que je crois que je me sentais beaucoup plus libre quand j'écrivais mon premier roman, par exemple, parce que c'était une aventure toute neuve et que j'explorais ça à la fois avec un peu de griserie et d'intimidation. La façon de faire, c'est toujours... Ça n'a pas beaucoup changé, sauf certaines... Il y a certaines choses que j'ai plus envie de faire sur les dialogues et tout ça, mais ça c'est des choses formelles, quoi. Bon, depuis pas mal d'années, je trouve ça totalement artificiel de présenter les dialogues isolés comme ça, ligne à ligne, et que je préfère les intégrer dans le récit. Il y a d'autres choses comme ça qui ont évolué, mais c'est toujours à peu près les mêmes. Je sais pas, les mêmes impératifs, puis les mêmes désirs, quoi.
Mais est-ce que l'expérience, les livres qui s'accumulent, est-ce que ça vous donne une comment dire, est-ce que ça vous fait gagner du temps en termes de méthode, ou est-ce que grosso modo vous retrouvez avec les mêmes problématiques pour faire exister un livre, une idée, une situation?
C'est un métier qu'on n'apprend pas. Ouais. Ça, je crois vraiment. Non, c'est je me retrouve aussi démuni. Plein d'espoir, mais vraiment aussi démuni quand je commence quelque chose que la première fois, quoi. C'est pas... Si je fabriquais des tables, bon, j'espère qu'au bout de 40 ans, les tables, elles tiendraient mieux debout, elles boiteraient pas, tout ça, et que je les ferais plus vite. Mais les livres, non. C'est toujours comme si c'était la première fois.
C'est pas un peu de la coquetterie de dire ça, parce que je suppose qu'au fur et à mesure des années, vos meubles textuels, vous savez un peu mieux, j'insiste sur le un peu mieux, les bâtir, les sculpter.
Non, c'est pas de la coquetterie, et en même temps c'est encore pire que ce que je viens de vous dire, parce que quand on a fait un certain nombre d'histoires comme ça, de romans, bon, il faut aussi faire, enfin il y a aussi le danger de répéter des choses dans le récit, dans la façon de le faire, dans un petit effet qui était plaisant dans un livre, mais qu'on va pas ressortir comme un vieux truc, quoi. Donc non seulement c'est comme la première fois, mais en plus on est moins libre, parce qu'on a un certain nombre de choses qu'on a faite et qu'il est hors de question de répéter. On a beau dire qu'il ne faut pas se répéter, je crois qu'en même temps, c'est une damnation, parce que malgré tout, et malgré tous les efforts et toutes les tentatives de faire des choses un peu différentes de ce qu'on a fait précédemment, on n'échappe pas à sa façon de faire. Même si on essaie d'écrire différemment, ça ne marche pas, on n'échappe pas à sa manière, et on échappe d'autant moins que c'est très difficile de définir sa propre manière. Moi, je sais pas très bien ce que je fais, en fait, mais...
Je crois que vous publierez en janvier un nouveau livre aux éditions de Minuit, qui, me semble-t-il, est de nouveau la vie d'une personne racontée, comme vous l'avez pu le faire avec, par exemple, Ravel ou Tesla. Est-ce que j'ai le droit de vous demander de qui il s'agit?
Ah oui, mais c'est une personne absolument fictive. Oui. Ça se passe maintenant, quoi. C'est la vie d'un garçon d'une cinquantaine d'années qui n'a pas tous les atouts de son côté. Voilà.
C'est bien, c'est vraiment bien comme accroche.
Europe is lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. System's too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring. But sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat, to dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it, pushing my body like I push my hands into pockets. And softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this, I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do. Cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top-down violence and structural viciousness. Your kids are don't stop him. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising. The water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation live beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts. You can ask our new, it was madness. Row ran red, pure clavit, and about them immigrants. I can't stand them. Mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich. It's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. Pray for a raise. Cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Caught sniffing lines off a prostitute's prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They abduct kids and fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal.
La poétesse et dramaturge anglaise Kate Tempest, qui clamait en 2016 « Europe is lost, l'Europe est perdue ». Kate Tempest qui sera en concert demain soir au Trianon à Paris pour présenter son nouvel album « The Book of Traps and Listens ». Il est temps pour moi de descendre de la péniche Ange Gabriel, celle du festival Passerelle d'Europe, qui, je crois, depuis ce reportage,
a réussi à atteindre Liège et se dirige en ce moment même vers Namur pour leur ultime journée de navigation. Remerciements au long cours à Marie-Hélène Caroff, Claire Diverès, David Clam et le capitaine Manu Nourdin pour leur extraordinaire convivialité. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Sullivan Clabeau, programmation musicale Michael Lio. Bon après-midi, bon dimanche et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures littéraires. Comme dit Jodorowsky, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons des tigres.
Nova Book Box, c'est comme un jukebox, mais avec des livres.